Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons ce thème tellement important concernant le salut. Chers frères et sœurs, la Bible, elle dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 19. Combien cet accord de la fraternité est bienfaisant, chers amis. Si toute prière a de la puissance auprès du Père, à combien plus forte raison la prière de l'amour fraternel. En chimie, plusieurs ingrédients faibles en eux-mêmes peuvent se combiner pour former un agent très puissant. Dans notre cheminée, mettons par exemple un tisson seul. Il a beau être ardent, mais il est loin d'allumer notre feu. Il s'éteindra et l'on aura froid. Mais par contre, mettons-en plusieurs tissons. Alors là, la chaleur de l'un excitera la chaleur de l'autre, et puis plus de charbon, oui, faut bien le dire, il y aura plus de charbon brûlant, et vous assemblerez ainsi votre foyer, et il brillera, gloire à Dieu, d'une flamme lumineuse, et il vous réchauffera. Donc, pourquoi repoussez-vous les réunions de prière, mes chers frères et sœurs? Vous qui croyez pourtant à cette sainte parole qui dit « là où deux » où trois sont assemblés en mon saint nom, je suis au milieu d'eux. N'avez-vous pas déjà expérimenté la vérité de cette merveilleuse déclaration? Oh, qu'il est bon, oui, qu'il est bon, et qu'il est agréable pour tous les frères et sœurs d'être réunis. Voyez-vous? Si tu es père ou une maman de famille, n'aimes-tu pas avoir tes enfants s'unir pour quelques bonnes heures? Je sais que c'est par principe que tu te tiens à part des prières collectives. Tout ce que l'on fait chez nous, de bien ou de mal, n'est-ce pas par principe? N'est-ce pas par raisonnement qu'on le fait? Je sais très bien que tu t'y unis de loin, car ton cœur, hélas, est plein de bons désirs, c'est déjà pas mal. Mais mon digne frère, ma digne sœur, il y a aussi de la soif que notre réveil qui nous est demandé, et que tu puisses ordonner ton sang pour l'obtenir. Oui, tu peux donner de toi-même, je veux dire de toi-même, donc ça veut dire aussi de ton sang. Mais, vois-tu, un sacrifice simplement d'un peu de ton temps, de tes idées, de ton plan de vie. Ça, c'est déjà pas mal. Et cependant, dis-nous bien, si au fond de ton cœur, tu n'es pas bien aisé de sentir que, pendant que tu t'en vas à ton champ ou à ton commerce, tes frères et sœurs prient pour toi, oui, pour toi, pour tes enfants même, et en te tenant ainsi à part, comme un passereau, seul, sur un toit. Eh ben, n'oublies-tu point ce que dit la sagesse? Car la sagesse, elle dit « Malheur, malheur à celui, à celle qui se trouve trop esseulé, car deux valent mieux qu'un seul. » Vois-tu, si un de vous tombe, l'autre va pouvoir le relever, et ensemble, ils auront plus de chaleur. Essaye donc, tout au moins, mon cher ami, qui est plein de conscience et de droiture, mais que nous croyons parfois mal, nous nous croyons mal éclairés, voilà, c'est ça, nous nous croyons mal éclairés sur certains points. Alors essaye, avant de tout rejeter, ce qui te serait peut-être une source de grâce. Ne va pas une fois, deux fois, mais poursuis toute chose au moins pendant tout un mois. Alors après expérience faite, eh bien tu pourras juger, oui, juger si l'accord dans la prière ne possède pas une force extraordinaire. Convenons-en cependant. Et cela pour que cette force puisse y être, il faut qu'il y ait bien véritablement un accord. Or, comment pouvons-nous nous unir? C'est ce que tu te dis. Comment pouvons-nous nous unir avec des vingtaines, des centaines d'individus, quand je ne trouve pas un seul esprit fait sur le modèle du mien. Mais mon cher ami, chacun en est au moins à un certain point. Crois-tu par exemple que tel ou tel qui s'y trouve pour encadrer sur tous les points avec leurs voisins de droite ou avec ceux de gauche. Et cependant, l'harmonie, elle doit exister, oui. Et cependant, la prière, elle doit pouvoir monter à Dieu de tous ses cœurs, comme d'un seul cœur. Ah oui, c'est que là, sur ce terrain sacré de la prière, eh bien là, Dieu descend, oui, il descend, parce que l'homme s'oublie, ou doit s'oublier du moins. Alors le lien de l'Esprit Saint demeure seul, et ce lieu, c'est devenu l'amour, c'est devenu la vie. En effet, rien n'alimente l'amour fraternel auquel l'Écriture sainte nous appelle si fortement, comme d'avoir prié tout simplement ensemble. Et comment n'aimerais-je pas le frère ou la sœur qui vient de porter à mon Dieu toutes les demandes du fond de mon âme, ces bénédictions tellement désirées sur moi, sur les miens, même sur mon pays. Et lui seul, comment ne m'aimerait-il pas si je suis associé, serait-ce que, au moins un peu, par tout ce qu'il y a de plus chaud, oui, de plus sérieux en moi, aux ardentes supplications qu'il nous a prononcées, qu'il nous a promises. Chers amis, vous n'obtiendrez que ce ne sont pas toujours des ardentes supplications, je répète, vous n'obtiendrez que ce ne sont pas toujours, jamais toujours des ardentes supplications que l'on entend. Car dans ces réunions de prière mutuelle, il y a du mélange, et oui, il y a des âmes en prière, mais aussi il y a des faiseurs de belles phrases, ça existe, et vous les entendrez, quelquefois même des gens qui ne sachent pas parler. Ils feraient beaucoup mieux, ceux-là, de se taire. Et c'est peut-être vrai, et je ne nierai pas que pour leur propre bien, il vaudrait mieux que ces gens restent dans le silence que Dieu leur assigne par le manque de dons ou de langage. Mais, pour mon bien à moi, je ne pense pas ainsi. Non, non, non. Combien de fois n'ai-je pas été plus édifié? Eh oui, c'est vrai, j'ai été plus édifié pour mon compte par une simple pauvre phrase qui a été très mal construite d'une sœur toute simple, mais qui est pleine de foi. Que par exemple, la cymbale qui retentit, mais qui sonne assez creux, que par la péroraison bien éloquente, qui part de la tête seulement, de notre intelligence seulement, et non pas de notre cœur. Voyez-vous? Donc, dites-moi, chers amis, dans ce que tu fais, toi, n'y a-t-il pas aussi des hauts et des bas, des bonnes et des mauvaises prières, des jours de vie et des jours de sécheresse? Tant qu'il en sera ainsi, alors laisse toute ta critique de côté. Tu n'as pas le droit de jeter la pierre à ton frère ou à ta sœur, qui d'ailleurs, elle vaut peut-être beaucoup mieux que toi. Vas-y, va chercher Dieu et non pas l'homme. Va avec ton âme pleine d'amour, d'humilité et de foi, et non pas simplement de littérature. Crois-moi. Dépose à l'entrée de la chambre haute ton esprit caustique et critique. Entre là avec ton cœur, avec ta foi, avec ton Seigneur de paix, et tu verras, oui, tu verras, si tu n'en ressors pas raffermi, réchauffé et vivifié. Dieu avait créé l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Alors souviens-toi, je n'aime pas ces appels, diras-tu, qui dans une œuvre toute spontanée, comme la prière, viennent vous indiquer des lieux, des jours, des heures, même des époques d'intercession spéciale. Tu n'aimes pas. Mais permets-moi tout de même de te dire avec franchise, ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas a-t-il grande importance devant le trône de Dieu? Sont-ce nos goûts propres, nos idées propres, nos jugements personnels, notre volonté propre qui doivent nous diriger? La question n'est pas là, Et Dieu merci. Ce n'est pas à ma pauvre petite lumière personnelle qui n'est souvent que, on peut dire, ténèbre, que je regarderai pour être dirigé, mais c'est à la loi et au témoignage, c'est un plus grand que moi qui me faut consulter. Je le répète, c'est à un plus grand que moi qu'il me faut consulter. Chaque fois qu'on me proposera quelque chose, j'ouvrirai les Saintes Écritures et je rechercherai si cela plaît à mon Dieu, oui ou non. Ne croyez point, cependant, que je veuille faire du caractère chrétien un vêtement unique pour toutes les tailles. Jamais. Loin de là, chacun a son moule, chacun a son type donné, chacun a sa forme de mission spéciale dans ce monde. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit, me semble-t-il. Les uns sont donnés comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Vous pouvez noter Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et plût à Dieu que les églises fassent davantage attention à cette déclaration divine. Oui, nous sommes membres les uns des autres. Mais les dons sont différents. Ils sont différents selon la mesure de la grâce qui nous a été donnée. Que celui donc qui a le don d'exhorter exhorte, et que ceux qui ont le don des réunions de prière prient tout simplement. Et s'il y en a qui ne travaillent pas avec nous, comme nous, quoique travaillons d'après la Bible tout de même, qu'ils soient donc bénis, ces chers frères et sœurs qui semblent séparés de nous, de fait. Mais attention, s'ils sont séparés de nous, de fait, ils ne sont pas séparés de nous, de cœur. Et j'espère qu'ils soient bénis dans leur droiture et dans leur fidélité à leur conscience. Car, qui n'est pas contre moi, qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Qui n'est pas contre moi est avec moi, alléluia, c'est ce que dit Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu n'a-t-elle pas toujours été la diversité dans l'unité? Si c'est par des chemins différents que nous devons aller au ciel, que ce soit comme on l'a dit, en nous tendant la main par-dessus les barrières. Toutefois, laissez-moi vous le dire, digne ami d'opinions différentes, peut-être, mais combien ce serait doux si votre cœur comme le nôtre puisse sentir aussi le besoin de rapprochement, si comme notre amour pour vous le désire tellement, vous vouliez quelquefois avec nous chercher à être ensemble, au moins spirituellement. N'est-ce pas sur ce terrain de la prière le plus large, le plus élevé, le plus céleste des terrains de la piété? que nous pouvons le mieux être véritablement un, comme Jésus-Christ nous y appelle. Quoi qu'il en soit, ensemble ou séparés, chrétiens de toute dénomination, Église et assemblée évangélique, accordons-nous au moins de loin, si ce n'est pas de près, pour crier avec tous nos frères et sœurs pour que des âmes, oui, des âmes, puissent être sauvées. Oui, c'est important, et cela pour le salut de tous ceux qui sont perdus. Si tu ouvrais les cieux et si tu descendais, puissent les semaines qui viennent maintenant, puissent ces semaines être de paix, être de concession fraternelle et de rapprochement réciproque. Une année de resserrement entre frères contre l'ennemi commun, afin que le monde ait la bouche fermée, étant obligé de dire « Voyez un peu comme ils s'aiment. » Priez. Cela ne veut pas forcément dire que nous devons faire de longues prières avec des mots compliqués et recherchés. La Bible dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'ils seront exaucés à force de paroles. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 7. Si donc l'abondance des paroles et la pauvreté des idées caractérisent les prières païennes, que de païens, hélas, même au sein du peuple chrétien, vous le croyez peut-être pas. Dans la multitude des paroles, il y a une multitude de péchés. Crains donc Dieu, dit le sage. Apprenons la sobriété évangélique qui réprime le verbiage, les phrases inutiles, les exagérations de sentiments, les fausses emphases et la mauvaise littérature en priant. Rappelons-nous donc que c'est à Dieu que nous parlons, qu'il sait très bien ce que nous voulons dire sans que nous ayons besoin de tant le lui expliquer, que si l'un de nous a présenté un sujet de prière, il est inutile que l'autre le reprenne pour redire exactement les mêmes mots. Certes, les sujets ne manquent pas. Nous n'avons pas besoin de nous faire ainsi l'écho les uns des autres. Le champ est riche, n'est-ce pas? Si l'un cultive le blé, eh bien, que l'autre cultive l'avoine. Si ton frère parle de tel malade, toi, ma chère sœur, présente-en un autre. Sur un seul sujet, selon moi, il est permis de se répéter. C'est dans la demande des grâces du Saint-Esprit. Et cette prière-là, elle renferme toutes les autres et ne saurait se multiplier assez, car elle est le cri de toute âme qui a soif. Et Dieu en soit mille fois béni, car nous avons soif maintenant. Et cette soif n'est-elle pas déjà un exaucement? Et cet exaucement n'est-il pas déjà un commencement de réveil? Réjouissons-nous donc, courage et espérance, redoublons nos cris, qu'ils soient bien en effet des cris non pas des bavardages. Seigneur Jésus, viens. Voilà le cri de l'Église. Puissent donc les enfants de Dieu le jeter carrément vers le ciel de toutes parts. Puissent-ils le chanter sur tous les toits et sur tous les tons dans toutes les églises de la terre, car il est la prière que le sérieux des temps actuels doit mettre de plus en plus dans notre cœur. Et n'oublions pas celle que le Christ nous a apprise, le modèle sur lequel nous devrions régler toutes les nôtres. N'est-elle pas un peu négligée parmi nous? Est-elle pas bien réellement notre prière quotidienne? Je vous le demande. Et cependant, ne dit-elle pas tout ce que nos cœurs doivent dire d'essentiel? Que donc nos prières saluent, entre autres, l'aurore de nos journées de travail, où trop souvent l'activité extérieure nous privant de la tranquille méditation du matin, et il nous reste que le temps d'une courte invocation à notre Dieu. Pour le soir, une simple action de grâce peut vraiment suffire à qui succombe de fatigue. J'ai connu un chrétien malade qui ne pouvait appliquer sa tête à l'effort mental de la prière. Il ne pouvait pas s'agenouiller chaque soir pour ces simples paroles prononcées au fond de son cœur. Il disait simplement: « Mon Dieu, je te rends grâce pour toutes choses. Je te prie pour toutes choses. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. » Donc, chers amis, lorsque tu t'approches de l'autel, n'offre pas le sacrifice des insensés, mais use de peu de paroles, car Dieu est au ciel. Et toi, n'oublie pas, tu es sur la terre. Chers amis, la Bible dit: « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle le ferait. » Saint Matthieu, chapitre 17, verset 20. Voyons cela un peu de plus près ensemble. « Que de montagnes pèsent encore sur nos cœurs et sur nos consciences ?» Montagne de péché surtout, poids de misère sans nombre, chaîne lourde et maudite qu'avec plus de foi nous aurions victorieusement culbuté dans la mer. À quoi ont servi nos prières de tant d'années si nous en sommes toujours au même point, si la victoire n'est pas obtenue? Il est écrit cependant: « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Ah, c'est que nous ne connaissons guère la prière fervente d'Élie. Oui, cette prière qui ne doute pas de la promesse faite à la foi. Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Ôte, oui, ôte Seigneur, les comment cela se pourrait-il? Qui naissent si souvent au fond de notre cœur, même au milieu de la plus ardente invocation? Pourquoi borner le Saint d'Israël? Est-il homme pour mentir? Est-il fils de l'homme pour se repentir? Y a-t-il quelque chose de difficile à mes yeux, dit l'Éternel? et quand nous prions selon sa volonté, pour sa gloire et pour notre sanctification, pour la conversion et pour la vie du pécheur, pour que son saint nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite comme au ciel. Pourrions-nous douter de son désir d'exaucer nos vœux? N'a-t-il pas dit, avant même que tu cries, je te répondrai? Et dans Daniel, il a dit, la réponse, elle est sortie dès le commencement de ta prière. En ce cas, pourquoi ai-je prié et n'ai-je vu aucune réponse? Pourquoi? Eh bien, parce que je n'avais pas besoin de voir, mais simplement de croire, parce que les temps et les moments sont à Dieu, et que l'humble travail du combat de la foi, il est à moi, parce que notre tendre Père, il veut nous enseigner à attendre en repos la délivrance de l'Éternel, parce que enfin il l'a promis et que cela doit suffire. Oui, sur cette seule promesse, le regard de la foi voit déjà la montagne qui est emportée au loin. Elle est engloutie à toujours. Qu'as-tu donc besoin, pauvre chrétien abattu, de voir ces bénédictions, de voir ces délivrances que tu réclames? Lis le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Ces hommes ont-ils vu la réponse à leur foi? Versets 39 et 40. Pourquoi raisonnes-tu au lieu de croire seulement? Vois-tu le petit enfant, il demande une pomme. Je te la donnerai, dit sa maman. Et le voilà tranquille, il sait qu'elle ne le trompe jamais. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est donc des chrétiens qui sont continuellement et souvent miraculeusement exaucés. Par exemple, les Moraves, c'est authentique. Eux, ils vivent d'une succession d'actes de foi et de délivrance dans les grandes et dans les petites choses de leur vie. Cela est prouvé. Et c'est qu'ils sont simplement des chrétiens, on peut dire des petits enfants. Et nous, nous sommes des chrétiens tellement raisonneurs. Oh là là, plus raisonneurs que nous, on meurt. C'est donc très différent. Je connais une personne qui, lorsqu'elle a fait une prière de foi dans les conditions posées par la Sainte Parole, elle rend déjà grâce pour l'exaucement. Mais cette âme laisse à Dieu, elle lui laisse le quand et le comment. Comment il voudra faire, lui, apparaître cette réponse à ses yeux? Pourquoi ne ferions-nous pas de même? Et si je venais à mourir auparavant? Mais qu'importe! Peut-être y eut-il des Israélites, croyez-moi, qui sont morts pendant les 7 jours de l'assaut de Jéricho. Mais la muraille, elle ne tomba pas moins à leur propice, parce qu'ils avaient cru, et ils avaient cru sans aucune hésitation. Mais pourquoi ces retards dans l'exaucement? D'abord, les pourquoi ne nous regardent pas tellement. l'argile, dira-t-elle au potier, que fais-tu? Puis ces retards même ne sont-ils pas une grâce de sanctification bien précieuse à ton âme? Dieu n'a nul besoin de nos prières pour bénir, car c'est son désir et c'est son bonheur suprême. S'il les demande, c'est pour nous, non pas pour lui. C'est pour nous accorder le bienfait de nous associer aux grâces que sa miséricorde veut répandre sur nous et sur les autres. Seulement de peur que cette faveur ne nous nuise en suscitant en nous l'orgueil spirituel, il semble nous rebuter un certain temps, mais ce n'est que pour éprouver notre foi plus précieuse que l'or, afin que cette épreuve tourne à sa louange, à son honneur et à sa gloire lorsque il paraîtra. Donc, prends courage, pauvre Cananéenne. Prends courage, il a recueilli chacun de tes soupirs, oui, chacun de tes cris persévérants. Si depuis des années tu le poursuis sans qu'il daigne se retourner, n'est-ce pas pour te dire un jour avec d'autant plus d'amour, ô femme, ta foi est tellement grande, et qu'il te soit donc fait selon ce que tu désires. Et en attendant ce jour du festin joyeux de la délivrance, contente-toi des miettes du petit chien. Abaisse-toi de plus en plus dans la prière, car plus ton âme se prosternera dans la poussière, reconnaissant qu'il ne te doit rien, plus le trésor des bénédictions, de l'exaucement s'accumulera pour t'enrichir au double quand l'heure marquée sera là. Que le Seigneur vous bénisse par le message qu'il a désiré de vous transmettre. Amen. Nous allons terminer ensemble, tout simplement par la prière, et je vous mettrai un ou deux chants ensuite qui sont très anciens, il y a environ 50 ans, quand j'avais fondé une mission sur cassette. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir encore comprendre, au moins, si possible, les paroles. Alors, en attendant, prions ensemble. Dieu tout-puissant et bon, tu es notre Père, et nous sommes l'argile que tu es. Oui, que tu es celui, en effet, qui nous a formé, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, selon Ésaïe 64. C'est la bonté, ta bonté, qui nous protège et veille sur nous pendant la nuit. C'est elle qui éloigne de nous tout danger pendant la journée. Ô Seigneur, comment ne nous abandonnerions-nous pas aux directions de cette beauté, de cette bonté paternelle, avec une confiance sans bornes, remettant entre tes mains tous nos désirs, toutes nos craintes, attendant de toi notre force et notre espérance. Tu nous as placés sur la terre pour peu d'instants, il est vrai, mais de ce peu d'instants dépendent nos destinées éternelles, et nous devons vraiment travailler à notre salut pendant ces jours que tu nous accordes. Seigneur, oui, viens à notre aide, et attire nos âmes à toi, car de nous-mêmes, nous ne savons et nous ne pouvons pas te chercher. Nos cœurs sont attachés au monde et pleins de troubles et de préoccupations futiles. On peut dire que nos passions sont encore, hélas, vivantes. Ta grâce seule peut les subjuguer et changer notre être moral et aussi notre être mortel. Donc ta grâce seule, elle peut produire la foi dans nos âmes et les amener captives aux pieds du Sauveur que tu nous as donné. Oui, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin que nous devons suivre, la vérité que nous devons croire, la vie que nous devons espérer. Ô Seigneur notre Dieu, tu nous as promis d'exaucer nos prières faites au nom de ton Fils bien-aimé. Exauce-nous, je t'en supplie. Exauce celle que nous t'offrons et nous scellons cette imparfaite prière en te louant et te remercions de tout notre amour. Amen. Chers amis, je vous mets maintenant un ou deux chants, comme je vous l'ai dit, de très longtemps, quand j'étais encore un jeune homme. À bientôt à nouveau, à demain.